Bonsoir, comment allez-vous? Mercredi dernier, nous célébrions la fin de la dernière guerre mondiale. Du coup, je me suis demandé comment nous pourrions éviter les guerres. Entre États, je ne sais pas, je ne suis ni diplomate ni chef d'État. Mais entre individus, on entre en guerre quand on se sent offensé. On dit à l'autre « tu n'as pas le droit, c'est inadmissible ». Nous prenons son comportement pour une attaque personnelle à laquelle il nous semble bon de riposter. Nous le jugeons avec nos valeurs, alors que nous ne sommes pas semblables. Regardez comme nous sommes différents physiquement, et bien nous sommes aussi différents psychiquement. Pour poursuivre la comparaison, il ne nous viendrait pas à l'idée de demander à un paralysé de courir. Les autres, soit ils ne peuvent pas, soit ils ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Si un Français donne un ordre à un Suédois, il peut toujours répéter doucement son ordre ou le crier. Si notre Suédois n'est pas francophone, il ne comprendra pas. Il ne se moquera pas pour autant, il n'y a pas d'offense. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'actions que nous prenons mal alors que l'autre n'a jamais voulu nous attaquer. Et pourtant, nous ripostons. On le voit bien évidemment plus facilement dans l'histoire des autres que dans la nôtre parce que nous avons du recul. Je me demande si ce n'est pas la susceptibilité qui est responsable de bien des conflits. C'est à la susceptibilité qu'il faudrait faire la guerre.
Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 8 ans et je voudrais savoir comment une guerre se déclenche. Au revoir.
Bonjour Adrien, t'as une voix tellement fraîche pour parler de guerre. Frédéric Ancel, Adrien demande comment une guerre se déclenche.
Il y a plein de possibilités malheureusement pour qu'une guerre se déclenche, mais qu'Adrien se rassure, il y a plein de possibilités aussi pour qu'une paix intervienne. Alors puisque la question porte sur la guerre, on va commencer par les guerres très anciennes, qui étaient ce que le grand Winston Churchill, donc le chef de la puissance britannique pendant plusieurs années, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, appelait la guerre des rois. Qu'est-ce que c'est que la guerre des rois pendant des siècles et des siècles d'Antiquité et du Moyen-Âge? Ce sont des guerres qui sont déclenchées par des rois qui sont de mauvaise humeur, qui se lèvent du mauvais pied, ou qui ont été vexés parce que un cousin royal dans un autre pays a refusé de donner sa fille en mariage, par exemple, ou qui refuse de donner un certain nombre de diamants. Bon, là, on n'est pas content. Et bien, puisque c'est comme ça, on décide d'aller faire la guerre.
Donc, une attaque personnelle.
Exactement. Et d'ailleurs, des grands stratèges dans l'histoire diront, mais enfin, arrêtez avec ces guerres-là, c'est stupide, ça n'intéresse pas le bien public, le bien commun, ça ne fera pas le bonheur du peuple, vous ne suivez que votre propre plaisir personnel, c'est intolérable. Je dirais que le dernier roi de France à s'être comporté comme ça, c'était Louis XIV, que je considère pour ma part comme un très mauvais roi. Louis XIV a fait beaucoup de guerres, notamment des guerres personnel, pour son prestige personnel ou simplement parce que tel était son bon plaisir. Alors ça, c'était les guerres d'avant. Après, on a eu ce que, toujours Winston Churchill, appelait les guerres des peuples, qui ont été finalement beaucoup plus meurtrières, malheureusement, au 19e et surtout au 20e siècle. Les guerres des peuples, c'était des guerres au cours desquelles des nations entières, comme en 1914-18, se retrouvaient sur de gigantesques champs de bataille où ils laissaient des milliers ou des millions de soldats tués, et parfois beaucoup de civils aussi. Et là, il ne s'agissait pas de l'humeur de tel président, de tel roi, de tel empereur, de tel premier ministre ou de tel général, mais il s'agissait plutôt d'aller chercher des richesses. Alors, soit on convoitait des richesses, par exemple des mines d'or, de l'argent, des gisements de pétrole, de gaz naturel, etc., chez le voisin, et on lui faisait la guerre. Soit il s'agissait d'étendre son territoire de façon guerrière plutôt que diplomatique, parce que croquer le territoire du voisin, ça permettait à terme d'aller chercher également des richesses. Alors ça, c'est beaucoup plus fréquent. Je dirais qu'il y a une troisième possibilité de faire la guerre, c'est par erreur. Malheureusement, certains conflits ont été déclenchés soit par erreur, soit par manipulation de l'erreur qu'allait faire l'autre. Et sur une espèce de malentendu, ça paraît bête à dire, hein, mais sur une espèce de malentendu, eh bien, il y a eu la guerre. On peut parler, par exemple, de la guerre de 1870 entre la France et la Prusse, qui s'est soldé par une catastrophe pour la France. Et là, il y a eu, de la part des autorités françaises et de l'empereur Napoléon III à l'époque, une véritable erreur de, on va dire, de perception de ce que voulait Bismarck en face.
Frédéric Ancel est géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po, entre autres. Il a écrit « Petite leçon de diplomatie russe et stratagème des grands de ce monde à l'usage de tous » aux éditions Autrement et d'autres livres que vous trouverez sur le site des petits bateaux. Alors, à propos des petits bateaux, ce soir, nous entendrons la réponse à la question de Tim, à quoi ça sert de se laver? La réponse à la question de Marius, pourquoi on appelle chevaux la puissance des voitures? Et Mathias a demandé si les animaux sont droitiers ou bien gaucher? Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 12 ans et j'aimerais savoir pourquoi on dit que pour être belle, il faut être maigre. Merci, au revoir.
Pour être belle, il faut être maigre, demande Emma, Georges Vigarello.
Ma chère Emma, je pense que tu utilises un adjectif qui n'est pas forcément l'adjectif qui est le plus adéquat à ce type de question. Parce que tu dis maigre, mais la maigreur en général, c'est extrêmement discuté, c'est extrêmement contesté. La maigreur, c'est celle qui représente un corps qui n'a quasiment plus que les os. C'est lorsque les joues sont totalement creuses, lorsque les os des omoplates se voient. Or, bien entendu, c'est pas du tout aujourd'hui ce type de critère qui est le plus important. En revanche, je suppose que tu as voulu dire maigre en pensant au mot « mince ». C'est la minceur qui est effectivement aujourd'hui demandée. Et la minceur, c'est celle qui rend un corps ressemblant en quelque sorte à une liane, comme un corps extrêmement élancé et comme un corps extrêmement souple. Et c'est une minceur aujourd'hui, oui, c'est vrai, la minceur aujourd'hui est attendue, mais c'est une minceur qui est tonique, c'est une minceur qui renvoie de l'activité. Alors là, il y a une différence très intéressante à faire, à mon avis, entre les époques anciennes et les époques d'aujourd'hui. Parce que la minceur, en fait, la minceur de la femme en particulier, ça a toujours été une qualité attendue. Mais la minceur de la femme, dans les époques qui sont un peu éloignées de nous, c'était une minceur qui renvoyait de la fragilité. La femme, c'est une personne à laquelle il faut porter de l'attention, qui est fragile, qui est vulnérable. Et c'est en cela que sa minceur qualifie en quelque sorte une personne un peu faible. Alors que la minceur d'aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est une minceur tonique, c'est une minceur active, c'est une minceur qui renvoie à des critères au fond de mobilité et de possibilité de changement, tu vois. Et du coup, cette minceur, c'est pas simplement de la forme, c'est renvoie à quelque chose qui est en dessous du corps en quelque sorte et qui le donne très vivant et qui le donne très actif. Et du coup, effectivement, oui, aujourd'hui, pour les raisons que je viens d'indiquer, on attend de la beauté qu'elle soit mince et qu'elle soit active.
Et oui, c'est bien intéressant ce que dit Georges Vigarello. C'est vrai que finalement, le corps représente une activité supposée. Par exemple, autrefois, d'être bronzé, ça voulait dire qu'on travaillait dans les champs, c'était pas très chic. Après, bronzé, ça voulait dire qu'on était riche parce qu'on partait en vacances au soleil. Ça change, la mode change.
Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves. Secret, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, dans tes classes. Les premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirées qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Que tu mentes autour des diabolos mentes quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant dans tes classeurs de lycée. Il y a tes rêves et tes secrets. Des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne.
Elle est jolie, cette chanson que Yves Simon a écrite pour la bande originale du film de Diane Curis, Diabolomante.
Les petits bateaux sur France Inter.
Quand vous tapez dans un ballon, vous tapez avec quel pied ?
Bonjour, je m'appelle Mathias, j'ai 11 ans, je vis en Corée du Sud et je voudrais savoir si les animaux sont droitiers ou gauchers. Au revoir.
Merci Mathias, c'est assez excitant pour nous d'avoir un auditeur qui nous appelle de Corée du Sud. Les animaux sont-ils droitiers ou gauchers ? Mathias, nous proposons ta question à Noreen Chai, qui est vétérinaire en chef de la ménagerie du zoo du Jardin des Plantes de Paris et auteur du livre « Sagesse animale » édité chez Stock. Ça, c'est une curieuse question que nous propose Mathias.
Oui, merci Mathias pour cette question, parce que je me suis toujours demandé si les animaux étaient droitiers ou gauchers. Ben oui, parce qu'en fait, quand je regarde mes flamants parce que vous savez, ils dorment sur un pied.
Oui.
Et j'ai remarqué qu'ils dormaient toujours sur le même pied. Et des fois, ils le changent, mais il y a un pied majeur dominant. Priori. Alors en fait, cette notion de droitier ou de gaucher, ça rapproche de ce qu'on appelle la latéralisation. Lorsqu'on se pose la question de savoir si un animal est gaucher ou droitier, c'est lorsque l'animal présente une possibilité d'utiliser ou pas un organe. Donc ça peut être une patte, ça peut être une aile, ça peut être une antenne, préférentiellement par rapport à une autre. Et du coup, on se pose la question, est-ce qu'il y a une latéralité dans l'utilisation de cet organe ? En fait, on a vu par exemple que chez les chimpanzés, en Tanzanie, un groupe de chimpanzés, ils utilisaient la main gauche pour des actions extrêmement précises, mais la main droite pour des actions qui nécessitaient plus de force. Donc il y a déjà une latéralisation dans l'utilisation des mains. Et cette capacité d'utiliser la droite ou la gauche n'est pas en fonction de l'espèce, mais en fonction de l'individu. Bah, comme toi et moi, par exemple, certains sont droitiers, d'autres sont gauchers, et d'autres sont ambidextres. Bon, moi, j'ai la chance d'être ambidextre.
Ah, c'est bien, ouais.
C'est bien pour opérer, c'est bien.
Ah oui.
Et donc, du coup, certains sont allés même plus loin. Ce sont des chercheurs britanniques qui ont étudié les chats domestiques. Et ils ont vu effectivement que certains chats donnaient la patte plus avec la patte droite, d'autres plus à la patte gauche. Donc, effectivement, certains chats sont droitiers et d'autres sont gauchers. On a vu que 73% des chats donnaient plus la main droite pour attraper la nourriture. Par exemple.
Oui.
Et les chercheurs ont supposé que les mâles seraient plus largement gauchers et les femelles droitières. Mais droitier ou gaucher, on le voit aussi chez les insectes. Les abeilles, notamment. Alors, ils n'ont pas de poing, mais ils ont des antennes. Et les abeilles utilisent l'antenne droite pour des phénomènes de socialisation. Donc, une abeille qui rencontre une autre abeille, elle se dit bonjour avec l'antenne droite.
Oui.
Pour voir si elle est amie ou pas. Et lorsqu'on ampute l'antenne droite, soit elle ne se met pas en contact, soit elle devient agressive, parce qu'il n'y avait pas de contact. Donc même l'abeille est droitière. Après, vous avez aussi les serpents. Alors, ils n'ont pas de bras, les serpents. Oui, je sais, ils n'ont pas de bras. Mais ils ont un corps et ils peuvent s'enrouler. Certains s'enroulent plus à gauche, certains s'enroulent plus à droite. Donc,
c'est
du coup,
très drôle.
Et donc, du coup, certains serpents sont plus droitiers et d'autres sont plus gauchers parce qu'ils s'enroulent. Et c'est pareil, on n'a pas besoin d'avoir une main, une aile, on peut aussi avoir un comportement de latéralisation. Et cette latéralisation, on peut même aller dans les organes. Par exemple, chez les reptiles, les serpents, tous les organes sont plus à droite. Par exemple, les oiseaux, certains oiseaux, ont une veine jugulaire qui est plus développée à droite qu'à gauche. Donc, par exemple, pour une prise de sang, on va plus faire la prise de sang à droite qu'à gauche.
Cette réponse du vétérinaire Noreen Chai est à réécouter sur franceinter.fr à la page des petits bateaux. Anne-Laure Cochet, qui est à la console, me dit « Et toi, quand tu fais la bise, est-ce que tu pars à droite ou à gauche ?» C'est vrai que c'est un peu comme les abeilles. D'ailleurs, quelquefois, on se cogne la tête quand on part tous les deux dans le mauvais sens. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bonjour, je m'appelle Mario, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi on appelle les chevaux la puissance des moteurs.
Marius, bonsoir. Marie-Hélène Drivaud, lexicographe, directrice éditoriale au dictionnaire Le Robert. Les chevaux des voitures.
Alors, Marius, il est très jeune et il n'imagine pas l'importance qu'a eu le cheval pendant des siècles et des siècles. C'est vrai qu'on l'a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on parle de cheval vapeur et de cheval fiscal. Alors le cheval vapeur, c'est une traduction de l'anglais. En fait, c'est une unité qui a été introduite au XVIIIe siècle par l'Écossais James Watt, qui est un mise au point la machine à vapeur, et c'est une unité de puissance donc qui établit une équivalence entre la puissance fournie par un cheval qui tire une charge, hein, qui fait un travail, et celle fournie par une machine à vapeur. Et le cheval était tellement omniprésent dans toute la vie de la société de l'époque que c'était devenu tout naturellement la référence de la puissance avant l'avènement de la propulsion mécanique. Hein. On parle de cheval fiscal aussi, qui permet de mesurer la puissance d'un moteur. Tout le monde connaît la deux chevaux Citroën. Hein. Ça permet même de donner son nom. Et les tramways, les omnibus étaient tirés par des chevaux encore à la fin du 19e siècle.
Hein. Et toutes les voitures.
Les fiacres également, oui, mais même les transports en commun.
Hein. Ah
donc,
oui, c'est vrai.
Tout était... Alors pour mon arrière-grand-père, il était cocher de fiacre, hein, c'est pas si vieux que ça. Et tout naturellement, il est devenu chauffeur de taxi quand les voitures sont apparues. Et donc, de la même manière, tout naturellement, on a utilisé le cheval comme poids de comparaison pour évaluer la puissance fournie par ces nouveaux moteurs qui permettaient de faire le même travail que le cheval, mais beaucoup plus rapidement et avec moins de peine.
Votre arrière-grand-père était cocher de fiacre. Oui. C'est pour ça que vous êtes lexicographe. Parce que moi, mon père, quand on dit des gros mots, il nous dit « Vous parlez comme un cocher de fiacre !» Parce qu'il paraît qu'ils avaient un vocabulaire très étendu, les cochers de fiacre.
Ah ben, même encore aujourd'hui, les conducteurs...
Oui, c'est coloré.
Oui, voilà.
L'argot est une langue riche et savoureuse. Écoutons les chansons de Pierre Perret ou bien lisons San Antonio ou encore Alphonse Boudard. I feel your love. I feel time is up. When I was a child. A transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside a nose. It's already day. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the favorite to the egg. I'm not getting let alone.
The Barrel, douce ballade de la chanteuse néo-zélandaise Aldous Harding. Quand mes enfants étaient petits, ils ne se lavaient pas les dents, ils mouillaient la brosse à dents pour s'ils me venaient à l'idée de vérifier. Maintenant qu'ils sont grands, ils ont de bonnes dents, un miracle.
Bonjour, je m'appelle Tim, j'ai 6 ans, je voudrais savoir ça sert à quoi de se laver. Au revoir.
J'aime bien cette question de Tim. Ça sert à quoi de se laver? Docteur Nina Ross, vous êtes dermatologue. C'est vrai que quand on se lave la peau. Ça sert à quoi, demande Tim?
Je voudrais remercier Tim d'avoir posé cette question que mes enfants m'ont souvent posée et qui continuent de me poser malgré leur âge avancé. On ne se lave pas pour embêter ou on ne demande pas aux enfants de se laver pour les embêter, mais parce qu'il y a quand même un intérêt. Le premier intérêt évident, c'est pour des raisons d'hygiène, nettoyer son corps de toutes les pollutions et notamment des microbes qu'on peut y accumuler et qui pourraient te rendre malade. Entre guillemets, ça tombe sous le sens. On n'est cependant pas obligé de se laver tous les jours pour être en bonne santé. On pourrait se laver les mains plusieurs fois par jour pour éviter la transmission de certains microbes, mais on n'est pas obligé de se laver le corps entier. Donc la question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on se lave tous les jours, voire deux fois par jour pour certaines personnes ? Moi, mon impression, c'est qu'il y a des normes sociales qui imposent aux gens d'avoir une présentation extrêmement aseptisée, c'est-à-dire qu'on va, par le lavage, chercher à bannir les odeurs corporelles naturelles, voire à les transformer. On est aussi dans une société de plaisir et souvent le moment du bain ou de la douche sont des moments extrêmement relaxants qui sont plaisants. Et on en sort en général avec un sentiment frais et de purification qui font du bien. Hein. Mais techniquement, on n'est pas obligé de se laver tous les jours pour être en bonne santé. Même, je dirais que chez les enfants qui ont une peau un petit peu plus fragile et plus sèche que l'adulte, le fait de se savonner tous les jours peut agresser la peau, en dissoudre les bonnes graisses et rendre la peau un petit peu plus fragile, un peu plus sèche.
Le bain quotidien du bébé, par exemple, n'est pas si obligatoire que ça ?
Pour des raisons d'hygiène, le bain quotidien du bébé, il n'est pas obligatoire. Un bébé, c'est pas vraiment sale. On pourrait se contenter de lui laver les fesses avec de l'eau et un petit coton, tout simplement. Cela étant, avec nos modes de vie actuels, c'est parfois le seul moment de la journée où les parents, père ou mère, ont un petit peu de temps à consacrer à leur enfant, peuvent déconnecter complètement, et c'est un vrai moment de plaisir pour les petits. En revanche, si on a un petit qui a la peau un petit peu sèche, un petit peu atopique, hein, qui a tendance à avoir de l'eczéma, ce bain, il peut être fait sans aucun produit moussant, sans savon, juste à l'eau claire, on barbote et on profite.
Donc, se laver, oui, tous les jours, pas forcément, et maintenant, on n'est pas obligé de se laver partout, de la tête aux pieds. On peut se laver sous les bras, les fesses, les pieds, et puis les mains, et basta.
Alors, on va distinguer les besoins de l'enfant des besoins de l'adulte. Hein. Jusqu'à l'adolescence, un enfant, ça transpire assez peu, donc il y a peu d'odeurs corporelles à combattre. Si les enfants aiment le bain et qu'ils ont la peau un peu fragile, on peut les laisser jouer dans de l'eau sans savon. À partir de l'adolescence, on commence à avoir une sueur qui véhicule des odeurs et des petits problèmes de peau. Il est souhaitable de se savonner au moins sous les bras et les pieds, un petit peu le visage et les cheveux. C'est vrai aussi pour les jeunes ou les adultes qui habitent en milieu urbain. On a de la pollution dont il faut se décrasser un peu.
Et alors, docteur Linaros, il y a une nouvelle mode. Des jeunes entretiennent les cheveux, mais carrément gras. C'est quoi l'idée ? Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Il faut bien comprendre que dans toute société qui va vers un excès, en l'occurrence, nos sociétés sont dans un excès d'hygiène qui est néfaste à la santé, il y a toujours des contre-courants. Donc, à l'excès d'hygiène et d'usage de produits cosmétiques, on voit se développer la slow cosmétique et le retour à une douche un jour sur deux ou un jour sur trois. Peut-être
et les cheveux une
arborer
fois par
sa
semaine.
Différence aussi, pouvoir dire moi j'existe aussi différemment ou je veux me mettre en avant pour quelque chose d'autre. C'est pas grave pour la santé d'avoir les cheveux gras, des pellicules. Il faut comprendre malgré tout que ça renvoie une image à l'interlocuteur, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu professionnel, qui n'est pas positive.
Dans Les Fées aquatiques, le film de Solveig Anspach, il y a une scène qui se passe dans une piscine en Islande. Il y a une jeune femme qui est chargée de regarder si les clients de la piscine se lavent bien comme il faut, là où il faut. Ces petits bateaux sont à réécouter sur franceinter.fr. Merci à Anne-Laure Cochet, Marjorie Devoucoux, Eliane Girard, Noël Bréham, que des filles.